Partie 1. Comprendre la rhétorique. La rhétorique, un mot souvent rencontré, mais rarement bien compris. Dans nos esprits, il s'entremêle avec d'autres, dont on pressent qu'ils lui sont vaguement liés. Éloquence, persuasion, négociation, voire influence, tromperie, manipulation. Avant de nous pencher sur les ressorts pratiques de la rhétorique, sur son fonctionnement concret, nous devons nous accorder sur le sens de ces termes. Ils seront utilisés à maintes reprises au fil de ce livre. Chapitre 1. Une brève histoire de la discipline. Pas d'inquiétude, nous serons brefs. Il n'est pas question ici de nous infliger une revue complète de la pensée rhétorique à travers les âges. Nous nous épargnerons notamment d'explorer la distinction complexe entre rhétorique et dialectique. D'autres auteurs s'en sont chargés, les curieux peuvent sans modération s'y référer. Quant aux pressés, qu'ils sautent allègrement cette partie historique, il ne leur en sera pas tenu rigueur. Mais si l'on désire comprendre ce qu'est réellement la rhétorique et pourquoi elle reste aujourd'hui peu enseignée, nous n'avons d'autre choix que de remonter à son origine, il y a 2500 ans. Car l'histoire de cette discipline demeure marquée au fer rouge d'une détestation dont nous avons hérité. 1. Les adversaires, Platon et Descartes. Nous le disions en introduction, la rhétorique n'a pas bonne presse. Encore faut-il ajouter que cela n'a rien de nouveau. Platon, déjà, la tenait en piètre estime. Pour lui, la rhétorique s'oppose à une autre discipline bien plus honorable, la philosophie. Platon part du principe qu'il existe une vérité et que celle-ci est accessible aux êtres humains. En y consacrant tous leurs efforts, les individus peuvent tendre vers la découverte du bien, du beau et du juste. Ils ont pour cela à leur disposition un outil remarquable, le dialogue. En confrontant leurs pensées, en mettant en commun leurs informations et leurs raisonnements, ils pourraient parvenir à dégager des connaissances véritables. Tel serait l'objet noble de la philosophie. Au contraire, Platon se méfie des discours d'assemblée où les auditeurs assistent, passifs et silencieux, à l'affrontement entre quelques individus. Dans un tel débat, les orateurs ne dialoguent pas, ils s'affrontent, pourfendent leurs adversaires, ridiculisent leurs contradicteurs et récoltent le triomphe. On comprend dès lors qu'il soit soumis à une tentation constante, celle de tout faire pour s'imposer. Et tant pis si cela implique de charmer les auditeurs, de s'adresser à leurs bas instincts, de ne leur dire que ce qu'ils veulent entendre, tant pis si cela implique d'abandonner la vérité pour se contenter de la victoire. Apprendre à convaincre sans se soucier de savoir pourquoi ni comment on emporte la conviction, tel serait l'objet vil de la rhétorique. Dans le dialogue Gorgias, cette pensée est développée avec une image marquante. La rhétorique serait au fond pareille à la cuisine. Pour Platon, le cuisinier est celui qui se préoccupe uniquement de flatter le palais sans s'embarrasser de ce qui est réellement bon pour le corps. De la même manière, la rhétorique aurait pour seul souci de flatter les esprits sans s'encombrer de ce qui est réellement bon pour les hommes ou pour la cité. La rhétorique serait ainsi à la philosophie ce que la cuisine est à la médecine, un savoir-faire mensonger, centré sur le plaisir et étranger à la vérité. Pour Platon, la rhétorique est donc une forme de dévoiement de la parole. Celle-ci n'est plus utilisée pour élaborer des connaissances, mais pour manipuler des foules. Elle ne cherche plus à découvrir le beau, le bien et le juste, mais à amasser prestige, pouvoir et richesse. La rhétorique ne serait rien d'autre qu'une parole ayant abdiqué la recherche du vrai, l'inverse même de la philosophie. Platon n'est pas le seul penseur à avoir formulé un jugement sévère à l'égard de la rhétorique. Il est notamment rejoint 2000 millénaires plus tard par René Descartes, dont les travaux ont exercé une profonde influence sur la pensée occidentale. Descartes part du même présupposé que Platon, la vérité existe, elle est accessible aux êtres humains, et il faut donc partir à sa recherche. Pour lui, cependant, cette quête du vrai ne passe pas par le dialogue, mais par la démarche scientifique. Mathématicien brillant, féru de physique et de sciences naturelles, Descartes estime que les sciences humaines, au premier rang desquelles la philosophie, doivent se plier aux mêmes exigences que les sciences exactes. C'est le triomphe de la pensée dite « rationnelle ». Pour être acceptable, les jugements doivent découler d'un raisonnement irréfutable, dans lequel chaque étape est la conséquence logique d'une conclusion antérieure, elle-même établie de manière incontestable. En somme, il nous faudrait porter sur le monde un regard similaire à celui que le mathématicien porte sur ses équations. Raisonner avec la même rigueur. Cette démarche porte un nom, la démonstration. La démonstration, c'est précisément le contraire de la discussion. Ce qui caractérise une démonstration, c'est son caractère indiscutable. Les auditeurs n'ont pas le choix d'en accepter ou non les conclusions. Ils peuvent éventuellement tenter de mettre en lumière une erreur dans le raisonnement logique. Dans ce cas, la démonstration se verrait invalidée. Mais faute d'y parvenir, ils seront bien obligés de considérer les conclusions démontrées comme justes et justifiées. C'est ainsi que ni les écoliers, ni les professeurs, ni même les mathématiciens ne se voient offrir le choix d'accepter ou de refuser le théorème de Pythagore. Tant qu'aucune faille n'aura été détectée dans le raisonnement qui y conduit, celui-ci devra être considéré comme vrai. On dit des conclusions d'une démonstration qu'elles sont nécessaires. Elles s'imposent aux auditeurs sans que ceux-ci aient la possibilité de s'y opposer. Voilà pour Descartes la bonne manière de raisonner au quotidien en recherchant la vérité avec l'exigence de la démonstration. Descartes va même plus loin. Pour lui, la vérité possède une spécificité, elle apparaît forcément comme évidente à qui en est témoin. Établie avec certitude au gré d'une méthode rigoureuse, elle ne peut qu'être claire et frappante, et s'imposer à tous sans résistance. Mais la réciproque vaut également. Pour Descartes, si un énoncé n'est pas accepté naturellement par l'auditoire, il est très probable qu'il soit en réalité erroné. De même, lorsque deux individus s'affrontent en tenant des points de vue divergents, il y a tout lieu de penser qu'ils aient tort tous les deux. En effet, nous dit Descartes, si l'un d'eux avait de la vérité une vue claire et nette, il aurait pu l'exposer à son adversaire de telle sorte qu'elle finisse par forcer sa conviction. Ces considérations conduisent Descartes à adopter une position radicale dans sa quête de connaissance. La vérité apparaissant naturellement comme évidente, il recommande de considérer comme presque faux ce qui n'est que vraisemblable. Ce faisant, il ne laisse aucun espace à l'argumentation. Par définition, un argument, c'est un énoncé qui n'est pas nécessaire. Il ne s'impose pas à l'auditoire. Il est toujours possible de le discuter, de le rejeter ou de lui préférer des arguments divergents. Ce que l'on est contraint d'argumenter, c'est précisément ce que l'on ne parvient pas à démontrer à l'aide de preuves définitives. Un tel énoncé, Descartes préférera le considérer comme faux plutôt que de risquer de l'accepter comme vrai alors qu'il pourrait ne pas l'être. Voilà comment, par amour pour la démarche démonstrative, Descartes décide de se détourner de l'argumentation. En donnant la prééminence au dialogue puis à la démonstration, Platon et Descartes ont ainsi en commun de rejeter la rhétorique en dehors du champ de la connaissance. D'autres auteurs formulent pourtant à son égard un jugement davantage bienveillant. Parmi eux, on trouve justement le plus célèbre élève de Platon. 2. Un défenseur, Aristote. Athènes, 4e siècle avant Jésus-Christ. La cité antique ressemble alors de très près à ce que nous appellerions aujourd'hui une démocratie directe. Dès lors qu'ils ne sont ni étrangers, ni esclaves, ni femmes, tous les citoyens sont libres de participer à la vie politique. Ils peuvent débattre des affaires publiques, voter les lois et, même, tenter d'être tirés au sort pour exercer des fonctions de premier plan. C'est dans ce contexte qu'Aristote achève la rédaction d'un ouvrage majeur, Rhétorique. Tout comme son maître Platon, Aristote estime qu'il existe des domaines de la connaissance dans lesquels les êtres humains doivent tendre vers la vérité, les mathématiques, les sciences naturelles ou la philosophie, par exemple. Il leur faut alors, effectivement, chercher à établir des conclusions certaines, reposant sur des chaînes de déduction rigoureuses. C'est ce qu'Aristote nomme des raisonnements analytiques. Mais il remarque aussi que de telles exigences ne peuvent s'appliquer aux affaires judiciaires, à la gestion de la cité ou au quotidien des citoyens, bref, à ce qui relève de l'action concrète des êtres humains. Car dans ces domaines, ce qui prévaut, c'est avant tout l'incertitude. Incertitude concernant en premier lieu la connaissance des faits passés. Les individus ne peuvent jamais savoir parfaitement et indubitablement comment des faits se sont déroulés, quelles raisons les ont guidés, quelles motivations les ont inspirés. Fût-ce après une enquête approfondie, appuyée par les techniques d'investigation les plus modernes, il subsistera toujours une part d'ombre. Ne serait-ce que parce que nous n'avons pas, et n'aurons probablement jamais, un accès direct à l'intériorité des individus, à ce qu'ils pensent et ressentent, consciemment ou inconsciemment. Mais cette incertitude concerne également les conséquences futures des actions présentes. Il est impossible de savoir, parfaitement et indubitablement, quelle sera la chaîne d'événements qui résultera demain de ce que l'on décide aujourd'hui. Si bien que, ne pouvant ni totalement connaître le passé, ni totalement prévoir l'avenir, les hommes doivent accepter d'agir dans l'incertitude. De telles réflexions constituent une rupture majeure à l'égard de la philosophie platonicienne. Elles impliquent d'abandonner tout espoir de parvenir à des connaissances certaines dès que l'on s'aventure en dehors des seuls raisonnements analytiques. Qu'il s'agisse de rendre un jugement dans un procès, de choisir une orientation politique ou de résoudre nos problèmes de tous les jours, il nous faut renoncer au fantasme de savoir où se situe le bien, le juste et le beau. Ou pour le dire autrement, la vérité nous est inaccessible au quotidien. Est-ce à dire pour autant que nous sommes condamnés à prendre nos décisions en dehors de toute raison, au gré de la violence ou du hasard? Aristote, lui, ne parvient pas à s'y résoudre. Il considère que, entre la vérité inaccessible et le chaos inacceptable, il existe une position intermédiaire. Celle dans laquelle on ne cherche pas à déterminer ce qui est bon, juste et beau, mais plutôt ce qui est probable, préférable et acceptable. Non plus la quête du vrai, mais celle du vraisemblable. Pour Aristote, de tels raisonnements ne s'inscrivent plus dans le domaine analytique, ils relèvent au contraire de ce qu'il appelle la rhétorique. Aristote réintroduit donc de la rationalité en dehors de la seule démonstration. Il montre que les êtres humains peuvent raisonner convenablement sans s'astreindre pour autant à des exigences insurmontables. Un tel positionnement entraîne des conséquences radicales. En faisant le deuil de la vérité, nous devons également renoncer à l'idée qu'il puisse y avoir une seule réponse à chaque interrogation, une solution unique à chaque problème. Autrement dit, au quotidien, nous ne pouvons plus être sûrs de rien. Pour chaque individu qui développera un raisonnement et en tirera une conclusion, il s'en trouvera un autre pour tenir un raisonnement différent et aboutir à une conclusion divergente. Il est possible qu'une de ces positions nous paraisse préférable à l'autre. Dans le futur, nous pourrons peut-être déterminer rétrospectivement quelle option était la meilleure. Mais au présent, il est impossible de savoir avec certitude où se situe le vrai. La seule boussole dont nous disposons pour prendre nos décisions, c'est le vraisemblable. Il faut mesurer les implications d'une telle pensée. Si, dès lors que nous sortons du domaine de la démonstration, il n'y a plus de vrai, alors plus personne n'a raison. Les conclusions d'une argumentation ne s'imposent jamais à nous. Nous sommes toujours libres de les refuser. Nous pouvons toujours brandir des contre-arguments. Il en découle des conséquences terribles. Nous pouvons défendre une proposition hautement vraisemblable et malgré tout échouer à convaincre. À l'inverse, nous pouvons défendre des énoncés ouvertement discutables et parvenir à emporter la conviction. Il en résulte qu'au quotidien, les individus n'ont pas seulement besoin d'une méthode pour raisonner rigoureusement, il leur faut également une technique pour emporter l'adhésion efficacement. La rhétorique, c'est précisément cela. L'art de déterminer ce qui est convaincant, au double sens du terme, rigoureux et efficace. Ces réflexions amènent Aristote à élaborer un ouvrage pratique, sa rhétorique, dans laquelle il étudie les procédés permettant de produire à la fois des raisonnements solides et des discours impactants. Il inaugure ainsi une tradition importante dans l'Antiquité, l'écriture de traités consacrés à l'art de convaincre. Celle-ci va perdurer jusqu'à la période romaine, à travers notamment les œuvres majeures de Cicéron, de l'orateur, et Quintilien, les institutions oratoires. Toutefois, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, ces ouvrages se font de plus en plus rares. La rhétorique entre en déclin. 3. Oubli et redécouverte. À la fin de l'Antiquité, deux traditions s'affrontaient, celle de Platon et celle d'Aristote. Au premier, le primat de la philosophie comme quête de la vérité. Au second, la reconnaissance de la rhétorique comme recherche du vraisemblable. D'un côté, l'art du dialogue, de l'autre, les techniques du discours. À l'échelle de l'histoire, le verdict est sans appel. L'école de Platon puis de Descartes s'impose, celle d'Aristote périclite. Ce sommeil de la rhétorique semble lié, au moins en partie, à l'histoire politique. En Europe, la chute des régimes démocratiques, dans les cités grecques, et des institutions républicaines, à Rome, entraîne une éclipse générale de la délibération dans la gestion des affaires publiques. Le débat en assemblée, la discussion en commun, la prise de parole devant un auditoire occupent une place de plus en plus restreinte dans le gouvernement des hommes. C'est le temps des empereurs et des rois, dont la parole ne souffre pas la contradiction. Les souverains décident sans avoir de compte à rendre. Ils imposent sans avoir à convaincre. L'époque n'est plus à la confrontation des arguments, mais à la flagornerie. Et justement, la rhétorique ne disparaît pas. Elle s'étiole. Peu à peu, elle se voit restreinte à l'étude des procédés permettant d'ornementer le langage. Elle devient l'art de flatter les oreilles plutôt que d'influencer les esprits. Des traités sont encore publiés, parfois même de grande qualité, mais ils se contentent désormais de répertorier les différentes figures de style. De plus en plus méprisés, de moins en moins enseignés, cette rhétorique restreinte finit par tomber progressivement dans un oubli cruel. Il faut attendre le milieu du XXe siècle pour voir la rhétorique sortir de sa longue hibernation. En Europe, plusieurs groupes de recherche se structurent, dans la lignée notamment du sémiologue Roland Barthes et du linguiste Oswald Ducrot. Mais ce sont surtout les travaux de Chaim Perelman, philosophe belge d'origine polonaise, qui vont constituer un tournant majeur. En 1958, il publie le Traité de l'argumentation, écrit en collaboration avec Lucie Olbrecht-Titeka. Cet ouvrage majeur constitue une rupture avec la philosophie de Platon et Descartes. Le premier apport de Chaim Perelman consiste tout simplement à avoir relu la rhétorique d'Aristote et redécouvert ses mérites. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la démocratie représentative s'impose partout en Occident. Dans ce contexte, la pensée aristotélicienne, qui ménage une place de choix à la délibération en assemblée, rejaillit avec toute son actualité. À certains égards, le travail de Chaim Perelman peut donc apparaître comme un simple dépoussiérage de la rhétorique antique. Ce serait toutefois passer à côté d'une originalité fondamentale, car son second apport consiste en une rupture avec Aristote lui-même. Le traité de l'argumentation repose en effet tout entier sur l'idée suivante: la rhétorique ne peut se comprendre en dehors du concept d'auditoire, défini comme l'ensemble de ceux sur lesquels l'orateur veut influer par son argumentation. À partir de là, de nombreuses difficultés se résolvent d'elles-mêmes. Aristote opposait, nous l'avons vu, la rhétorique à la philosophie. La première se bornerait à rechercher le vraisemblable, tandis que la seconde tenterait d'établir des vérités. Or, selon Chaim Perelman, que désigne-t-on concrètement lorsque l'on parle de « rechercher la vérité en philosophie » ? Rien de plus, au fond, que le fait de produire des arguments susceptibles d'être acceptés par tous les êtres humains, de toutes les époques, quelles que soient leurs valeurs, leurs opinions ou leurs visions du monde. La philosophie pourrait être ainsi définie comme une argumentation qui ne chercherait plus à convaincre un auditoire restreint, particulier, situé dans le temps et l'espace, mais s'adresserait au contraire à toute l'humanité et à l'ensemble des âges, c'est-à-dire un auditoire universel. Quand ils argumentent, les philosophes se contenteraient d'utiliser une forme particulière de rhétorique. Le travail de Chaim Perelman constitue donc une véritable rupture. Il ne se contente pas, comme l'avait fait Aristote, de réhabiliter la rhétorique aux côtés de la philosophie. Il va plus loin, en érigeant la rhétorique au-dessus de la philosophie. Celle-ci n'en est finalement que la déclinaison la plus exigeante, celle dans laquelle les argumentations s'adressent à l'auditoire le plus large qu'il soit possible de concevoir. Quant à la rhétorique, elle devient le médium général par lequel les êtres humains parviennent à se convaincre. Ce livre, Le pouvoir rhétorique, s'inscrit dans la continuité directe de la pensée de Chaim Perelman que nous nous proposons modestement de prolonger. Car si le traité de l'argumentation est une lecture passionnante pour qui veut se forger une connaissance théorique de la rhétorique, il demeure avant tout l'œuvre d'un philosophe et d'un logicien. Il n'a pas été écrit pour être adapté aux réalités de la vie quotidienne. Voilà précisément l'objectif qui est le nôtre dans ce livre, proposer un enseignement concret de la rhétorique, une rhétorique pratique.